à tous, bonjour à toutes.
Bonjour.
Vous êtes bien sur Radio Galère 88.4 FM à Marseille et radiogalère.org un peu partout dans le monde. On est le premier mercredi du mois, il est 16h30 et du coup c'est l'émission d'histoire qui ne fait pas d'histoire. On a bravé la tempête et les détritus volants pour arriver au sud de Radio Galère. Ça faisait super longtemps qu'on n'était pas venu.
Youhou !
Ça faisait un bail. Donc on est super contents. Enfin, en tout cas, moi je suis super content.
Bah, moi aussi.
Bon, bah parfait. Aujourd'hui, notre émission, de quoi elle va parler ? Elle va parler de contraception masculine et du coup, principalement de vasectomie. Pourquoi on va parler de ça ? C'est parce qu'on a rencontré Elodie Serna après la présentation qu'elle a faite de son bouquin qui est intitulé « Opération vasectomie », qui pose les choses assez clairement. Du coup, c'est d'un point de vue historique qui parle de la vasectomie. C'était le 16 septembre à la librairie marseillaise L'Hydre aux mille têtes. Donc on va écouter cet entretien qu'on a enregistré avec elle juste après. Juste pour clarifier les choses, qu'est-ce que c'est une contraception ? Alors, par l'Organisation mondiale de la santé, c'est défini comme l'utilisation d'agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la probabilité de conception ou l'éviter. Donc en gros, c'est des manières d'éviter qu'une relation sexuelle entraîne une grossesse. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des choses à rajouter pour la présentation de cette émission.
Oui, juste que à propos de la contraception, pour l'instant, c'est plutôt une méthode qui est plutôt destinée aux femmes jusqu'à présent. Et du coup, la contraception masculine n'est pas du tout quelque chose de très commun socialement. Et c'est aussi l'un des enjeux de ce livre, qui est aussi de faire connaître la contraception en général et la vasectomie en particulier.
Ouais, voilà, exactement. Ce que je vous propose, c'est de se mettre une petite musique et puis après, on s'écoute l'entretien avec Elodie. Ça marche ?
Tout à fait.
Allez, c'est parti, on écoute Jean Knight, Mr. Big Stuff.
You're never gonna get Eh ben bonjour Elodie.
Salut.
Bonjour.
Alors ton livre c'est...
Le livre en question c'est un livre qui s'appelle Opération vasectomie, qui est sous-titré Histoire intime et politique d'une contraception au masculin. Et c'est un bouquin qui est sorti chez Libertalia au mois de mai. Donc c'est un bouquin d'histoire que j'ai écrit après avoir fait un travail de thèse. J'ai fait une thèse, j'ai soutenue il y a quelques années, sur les stérilisations masculines volontaires dans les années 20 et 30. Et donc c'est une thèse qui concernait plusieurs pays d'Europe. Et à la suite de ça, j'ai fait donc ça va apparaître au mois de novembre en bouquin. Et à la suite de ce travail-là, j'ai fait le livre chez Libertalia, qui là est un parcours d'un siècle de vasectomie. Et donc là, c'est pas limité à l'Europe, c'est en prenant des exemples un peu partout dans le monde. La vasectomie, c'est une opération peut-être qu'il faut d'abord expliquer. Cette contraception, donc moi j'ai fait le choix de la qualifier de masculine parce que dans le bouquin, en fait il est beaucoup question quand même des rapports, donc c'est quand même dans un contexte hétérosexuel, beaucoup question des rapports entre hommes et femmes et donc des rapports de pouvoir qui s'exercent à travers la contraception. Et il y a d'autres gens qui militent sur ce sujet, ce qui n'est pas mon cas, moi je ne me présente pas comme militante mais comme historienne pour le coup, mais des gens qui militent sur le sujet, qui parlent de contraception testiculaire pour vraiment impliquer aussi dans sa réflexion là toutes les personnes qui sont porteuses de pénis mais qui se reconnaissent pas forcément en tant que comme. Donc voilà, par facilité de langage et parce que aussi en fait le travail que j'ai fait il a été guidé par les sources que j'ai trouvées, là dans la discussion on va simplifier les choses et c'est pas pour nier cette réalité là mais en tout cas il va être voilà, beaucoup de questions plutôt d'hommes cisgenrés dans un rapport hétéro. Et donc, je parle aussi de contraception masculine parce que en parcourant cette histoire-là, c'est beaucoup la masculinité en elle-même, le virilisme qui peut être remis en question, quoi. Pour ce bouquin, j'ai travaillé sur un certain nombre de sources que j'avais pas forcément prévu d'avance, c'est-à-dire que je suis partie sur ce sujet en sachant pas comment j'allais mener le truc. Et en fait, j'ai d'abord travaillé sur un procès qui a eu lieu au milieu des années 30 à Bordeaux, d'hommes et une femme qui avait organisé des stérilisations dans un appartement. Donc j'ai d'abord travaillé sur cette affaire-là. Et ensuite, j'ai étendu le sujet de plus en plus selon les sources que je trouvais. Et j'ai eu pas mal de chance finalement parce que c'était pas couru d'avance, mais j'ai trouvé pas mal d'informations dans la presse parce que l'affaire de Bordeaux avait été beaucoup relayée dans la presse locale mais aussi la presse nationale. Donc pendant des jours et des jours, il y avait les petites chroniques sur l'enquête policière, après les chroniques judiciaires, etc. J'ai récolté beaucoup d'infos à travers la presse. Des infos judiciaires, il y en avait peu en France, mais il y a eu des procès un peu similaires en Autriche. Et là, je suis tombée sur vraiment toutes les procédures d'enquête, tous les interrogatoires qu'il y a eu pendant les gardes à vue, toutes les minutes de procès. Enfin, tout avait été consigné et conservé. Et donc ça m'a permis d'avancer beaucoup plus dans le sujet. Et ensuite... En parallèle de ça, j'ai travaillé beaucoup sur le champ médical et donc lu plein de thèses sur les contraceptions masculines qui étaient employées dans un but de rajeunissement dans les années 20 et 30. Et là, il y a vraiment plein de théories sur le sujet, plein de gens qui ont fait des commentaires des opérations qu'ils avaient pu mener auprès de leurs patients. Ça, plus des écrits militants, enfin les productions, des articles qu'on trouve dans la presse anarchiste de France et d'autres pays. Le tout a fait que ça a permis faire une étude assez complète et j'avais pas pensé au début que j'allais pouvoir sortir autant de choses sur la période de l'entre-deux-guerres. En étudiant ça, en fait, j'ai aussi croisé des gens qui avaient été impliqués sur le sujet sur des périodes plus récentes, des gens qui ont conservé même des archives et qui étaient militants sur le sujet dans les années 70, comme Claude Guillon, qui m'ont ouvert leurs archives. Et j'ai ensuite aussi interrogé plus récemment des gens qui avaient milité auprès d'Ardécom, des gens qui aujourd'hui sont militants pour les contraceptions temporaires, des personnes impliquées au planning familial qui ont participé au développement de consultations pour les hommes dans les différents plannings qu'il peut y avoir en France. Et voilà, du coup, l'ensemble des sources, ça fait un truc assez hétéroclite, mais voilà, je ne pensais pas au départ réussir à parcourir les choses avec autant de détails sur ce sujet-là, parce que personne n'avait travaillé sur... si ce n'est un étudiant qui avait fait un mémoire de master sur les affaires de stérilisation qui ont eu lieu en Autriche à la fin des années 20. Mais sinon, personne n'avait travaillé sur l'histoire de la vasectomie. C'est le premier bouquin, enfin, c'est les deux bouquins que je sors, là, c'est les deux seuls bouquins sur le sujet. Voilà, j'ai vraiment eu finalement beaucoup de bol et été aidée par pas mal de gens qui avaient envie que cette histoire-là s'écrive, quoi. L'intention du bouquin, donc, c'était vraiment de partir de ce que je connais de l'histoire de la vasectomie pour arriver à des questions assez actuelles, et donc vraiment de partir des années 20 pour arriver jusque 2021. Cette année 2021 qui marque les 20 ans de la loi qui a autorisé en France la stérilisation volontaire, donc stérilisation des femmes comme stérilisation des hommes. Voilà, c'était un peu un prétexte aussi pour sortir le livre à ce moment-là. 20 ans, c'est en fait assez peu, surtout au regard de ce qui s'est passé dans les autres pays, notamment d'Europe de l'Ouest. La France a légalisé très tard la stérilisation volontaire. Et ça, on peut aussi l'expliquer par tout un... par l'histoire très nataliste du pays.
Dans la présentation que tu en as faite, il y a des questions qui se sont soulevées plus que d'autres, et notamment celle qui consistait à différencier la stérilisation volontaire de la stérilisation forcée, qui a eu lieu aussi dans le monde, et toujours dans des rapports de pouvoir et de domination, et des contrôles de population. Et donc il y a deux choses quand même à distinguer dans la stérilisation. Il y a celle qui a été imposée par les États pour contrôler les populations, et celle qui est de l'ordre du désir et du libre choix de chacun pour ne plus avoir d'enfants.
Oui, aujourd'hui, si on parle de vasectomie en France, on parle en effet de vasectomie volontaire, de charges contraceptives, d'engagement des hommes sur ces questions-là, etc. Si on fait un retour vers les décennies précédentes, c'est des tout autres questions qui se posent. Et donc, ce à quoi tu fais référence, c'est notamment dans cette période des années 20 et 30, où, en fait, à l'époque, forcément, la stérilisation des femmes est techniquement assez compliquée. Donc, les discours pro-stérilisation se reportent plutôt sur la vasectomie. Et à l'époque, ce qui est majoritaire en Europe, c'est pas sur la vasectomie qui serait juste ce libre choix et une option parmi d'autres de moyens de contraception, mais ce qu'on entend plus, c'est des injonctions à ce que certaines catégories de population en viennent à se stériliser, soit sous la contrainte, soit sous l'effet d'une pression morale suffisante pour qu'ils ressentent leur... prétendue nocivité pour le pool génétique commun. Et donc cette période de l'entre-deux-guerres, parce qu'elle est marquée par l'eugénisme, interroge pas mal sur le rapport de pouvoir qui s'exerce sur nos corps en matière de procréation en général. Et l'histoire de la vasectomie est un petit peu un prétexte, on va dire, pour questionner avec un petit décalage, avec un petit pas de côté, des choses qu'on connaît déjà sur l'histoire de la contraception en général. C'est-à-dire que souvent, moi j'avais l'impression d'avoir lu des choses qui posaient l'histoire de la contraception médicalisée comme quelque chose qui accompagnait un processus d'émancipation des femmes, qui avait été une recherche médicale qui avait été motivée par ce désir d'émancipation des femmes. Et en fait, là, en étudiant l'histoire de la vasectomie, je me suis rendu compte indirectement que l'eugénisme avait été moteur de beaucoup, pour beaucoup de militants, pour des chercheurs, pour des gens qui ont financé la recherche, pour des gens qui ont promu la contraception. Et ça n'enlève rien au fait que ça ait évidemment participé à la possibilité pour les femmes de conquérir la libre disposition de leur corps. Mais il me semblait important quand même de remettre cette question de l'eugénisme aussi au centre de la réflexion, disant ben il y a un rapport de classe qui se joue dans l'histoire de la contraception qu'on a un peu tendance à oublier, parce que on vise pas de la même façon les hommes et les femmes, bien sûr, mais pas non plus la classe ouvrière et la bourgeoisie en matière de contraception et de procréation. C'était pas au départ la question autour de laquelle j'avais pensé travailler, mais c'est un peu cet aspect-là qui m'a accroché au sujet, on va dire, et qui a fait que j'ai voulu développer ça dans une thèse et puis après dans un autre bouquin, etc. Enfin, c'est pas juste pour promouvoir la vasectomie comme si c'était un moyen idéal pour que des tas de gens résolvent la question contraceptive dans leur couple. Déjà parce que je pense pas forcément les choses en termes de couple, mais aussi parce que il y a tout un tas de questionnements qui viennent avec la contraception masculine qui nuancent le discours, qui complexifient la réflexion, et on ne peut pas juste dire « Ah ben voilà, c'est une solution en soi, quoi.
Mmh. » Ben, ça pose aussi la question de savoir que la meilleure contraception, c'est celle qu'on choisit, dès lors qu'elle n'est plus choisie, mais imposée, comme ça l'a été dans l'histoire. On peut revenir aussi sur des exemples, parce que hier tu parlais du mouvement néo-malthusien qui à un moment donné a été la base d'une espèce de réflexion de dire qu'on était trop nombreux sur Terre, donc pour résoudre les problèmes sociaux il fallait peut-être un peu moins se multiplier, on va dire, pour rendre accessibles les richesses aux gens, qu'ils soient moins nombreux, et que ça a été une direction qu'à un moment donné le mouvement anarchiste à utiliser aussi pour trouver une solution aux problèmes sociaux, quoi.
En fait, le mouvement néo-malthusien, il est né au 19e siècle, dans les années 1870. C'est à ce moment-là que vraiment des ligues ont commencé à se constituer, à se dénommée elle-même néo-malthusienne. La doctrine, ce qu'elle revendiquait, c'est le fait que la question sociale pouvait être résolue par la question sexuelle. Donc, en faisant moins d'enfants, on pouvait limiter la quantité d'ouvriers disponibles, la quantité de main-d'œuvre, et donc faire pression sur le patronat, et aussi peser davantage dans le rapport de force, et parvenir par ce biais-là à améliorer les conditions de vie. Donc, bon, économiquement, c'est des théories qui tiennent pas trop la route quand on les analyse a posteriori, mais déjà à l'époque, il y avait quand même des marxistes qui avaient conscience de la limite de cette logique-là, et qui l'a critiquée. Mais en effet, c'est une doctrine qui incite beaucoup à la conscience de soi, à la remise en cause, à la réflexion sur ses propres choix et engagements, etc. C'est une doctrine qui a été pas forcément adoptée par tous les libertaires ou anarchistes, mais en tout cas qui a largement croisé le monde libertaire. Et donc, parmi les néo-malthusiens les plus impliqués, les plus connus, il y en a un certain nombre qui étaient vraiment très proches des anars, et qu'on peut classer dans cette grande mouvance libertaire, quoi. Et ça jusqu'aux années 30. Là, les néo-malthusiens posent là aussi la question de la procréation dans un rapport de classe, mais en le pensant vraiment comme un moyen d'émancipation de la classe ouvrière. À l'inverse, il y a tout un tas d'eugénistes qui, eux, vont, dans la même période, poser un discours sur la procréation et la contraception qui vise non pas forcément à... qui vise pas à l'émancipation de la classe ouvrière, mais au contrôle des classes dangereuses. Et donc c'est assez perturbant au départ, quand on étudie l'histoire de l'eugénisme, de voir que sous ce même terme et ces mêmes logiques biosociologiques, qu'il peut y avoir des intentions politiques et sociales complètement contraires, quoi. Mais il y a cette logique de, par la science, résoudre la question des inégalités et non pas. Et donc, c'est voilà, déjà critiqué à l'époque par certains comme un moyen de contourner la question de la lutte de classe, quoi.
Et responsabiliser les populations comme étant la source du problème quant au. Quant à l'accès aux richesses, quant à la, au partage des richesses, entre autres, quoi. Et puis,
Oui, et puis même à l'époque, il y a par exemple un militant néo-malthusien qui s'appelle De Valdès, qui lui parle, comme d'autres, hein, c'est pas le seul à le faire, qui parle de race des pauvres, avec l'idée que les conditions de vie de la classe ouvrière ont altéré les capacités physiques et intellectuelles, et que quand on se reproduit, ben, on reproduit aussi ces corps altérés. Donc il y a une responsabilité des pauvres eux-mêmes à produire des enfants, à faire des enfants qui vont porter les mêmes tares. Cette idée de dégénérescence, et même si le discours n'est pas aussi clair que ça, il y a quand même une dimension très culpabilisatrice sur les gens qui sont considérés comme un peu, voilà, non seulement l'ali de la société, mais aussi l'ali d'une classe ouvrière qui devrait être révolutionnaire et qui n'en a plus les moyens parce que pas assez solide biologiquement, quoi.
Donc, tout à l'heure, on parlait de population inutile qui ne sert à rien.
Voilà, une population considérée comme surnuméraire. Mmh. C'est-à-dire ces gens qui, alors non seulement peuvent être considérés comme inutiles, mais même nocifs à l'ensemble de la population qu'on peut à l'époque appeler race. Enfin, ils utilisent souvent le terme de race, pas comme on l'entend aujourd'hui, mais aussi comme un groupe de population, quoi. Cette question du rapport de classe se rejoue aussi dans d'autres termes, dans un autre contexte, après la Seconde Guerre mondiale. Et là, donc, pour aborder ça, j'ai fait le choix dans le bouquin de parler de l'exemple de l'Inde, qui mène de 59 jusqu'au milieu des années 70 des campagnes de stérilisation massive, donc stérilisation des hommes, et dans le même temps, en parallèle, de pose de dispositifs intra-utérins, donc ce qu'on appelle le stérilé communément en France. Mais ça, c'est quelque chose qui dont on parlait même dans la presse française dans les années au début des années 70, par exemple. C'était pas totalement inconnu, mais par contre, ça a été oublié par la suite. Et les gens voilà, qui n'ont pas vécu cette période et qui n'ont pas, à l'époque, eu connaissance de ça, aujourd'hui, je crois qu'on ne sait pas trop qu'il y a eu un temps de la planification familiale où on a misé sur la vasectomie. On s'aperçoit que l'eugénisme n'est pas si éloigné que ça, parce que les associations qui étaient très actives sur la question eugéniste dans les années 30 reviennent dans les années 50 sur la scène internationale pour promouvoir la stérilisation et la contraception dans des conditions qui ne sont pas très claires dans beaucoup de cas. C'est-à-dire que la volonté des femmes n'est pas toujours respectée et qu'il y a une grosse incitations à la contraception, voire la contrainte. Donc pour repartir sur cette histoire en Inde, donc dans les années 60-70, c'était prétendument volontaire. Et pourtant, donc par exemple, il y avait une rémunération. Il y a plein de moments, plein d'endroits où on rémunérait les hommes pour se stériliser, les femmes pour mettre un DIU. Est-ce que là, on parle de stérilisation volontaire ou pas? C'est-à-dire que quand, à un moment donné, c'était surtout dans des périodes après des grosses crises agricoles où les gens ils crèvent la faim, on te paye pour aller te stériliser. En fait, c'est ton seul moyen de survie. On te donne pas d'autres moyens de survie. Et c'est un dernier secours, quoi. Bon, ben, c'est volontaire, c'est pas volontaire. C'est compliqué à dire. A priori, pour moi, ça ne l'est pas. Oui. C'est-à-dire que quand tu es poussé par la misère, c'est de toute façon, ça ne l'est pas. Mais je pense qu'il y a plein de situations comme ça où c'est pas forcément facile de poser les limite entre les deux, quoi. Et donc voilà, ces associations eugénistes sont très présentes là-dessus et elles visent essentiellement les populations pauvres des pays les plus pauvres, mais aussi les populations pauvres des États-Unis, par exemple. Il y a vraiment l'idée que, là encore, et pour d'autres raisons, et la raison principale, c'est la peur de l'explosion démographique, il y a encore l'idée que le problème... Enfin, que le problème n'est pas l'inégale répartition des richesses ou que le problème n'est pas la surproduction, surconsommation de certains, mais que le problème, ce serait le nombre. Et que le nombre, bah, c'est toujours le nombre des pauvres. Et, qu'on vise vraiment à limiter le nombre des pauvres. Donc là, c'est dans un contexte postcolonial, c'est avec des problématiques impérialistes qui sont différentes, avec des réflexions sur la démographie, mais aussi sur l'écologie, qui sont très différentes de ce qu'il y avait avant la Seconde Guerre mondiale. Mais là encore, on retrouve cette difficulté, enfin cette complexité, à la fois où la contraception, bien sûr, pour beaucoup de femmes, c'est un progrès très net qui leur permet d'avoir des conditions de vie plus décentes, et en même temps, c'est fait dans des conditions qui sont très peu respectueuses des femmes, très peu respectueuses de la volonté aussi des femmes, mais aussi de certains hommes, donc par exemple en Inde. Et il se joue à travers ces incitations ou ces contraintes à la contraception des intérêts d'État, des intérêts géopolitiques, des intérêts économiques et un maintien aussi des inégalités et de l'organisation du capitalisme.
Mais on le voit plus récemment d'ailleurs au Pérou, il y a eu les stérilisations forcées des femmes natives. Il y a eu 300 000 femmes qui ont allégué tirer les trompes sans leur consentement. Et aussi 20 000 personnes vasectomisées, hein, comme on dit.
Moi, j'emploie vasectomisée, mais c'est un néologisme.
Et du coup, voilà, et plus récemment, la fameuse histoire de Madame Voynet, mairesse de Montreuil, qui... lorsqu'elle visite un camp rom sur sa commune, dit publiquement de face caméra, on va diffuser l'extrait.
Le campement arrive à saturation. Pas question d'accueillir plus de monde.
Vous êtes jeune marié.
Oui.
Vous êtes jeune marié.
Oui, je m'en rappelle.
Mais après, moi, je vais dire, on va mettre pour tout le monde sur le camp une consultation sur la contraception. Hein.
D'accord.
Parce que si, je ne sais pas comment vous faites, hein. Les enfants, tous les mois, il y a un enfant qui naît sur le camp, non?
C'est vraiment comme ça.
Il fait froid, vous vous réchauffez.
Non.
Bonjour. Vous allez bien? Voilà. C'est vos enfants? Voilà.
Voilà. J'ai l'impression qu'on est nourri aussi de cette histoire presque romancée sur l'arrivée de la pilule qui a permis un accès de toutes les femmes à la contraception. C'est très franco-français comme... ou au moins eurocentré comme récit. Et aujourd'hui, en France, on est particulièrement sur une espèce de script contraceptif au cours de nos vies de femmes, où c'est admis que selon l'âge qu'on a, il y aurait, et selon le nombre d'enfants qu'on a eu ou pas eu, et bien qu'il y aurait une contraception déjà prédéterminée. Qu'en fait, on a assez peu de moments où l'information est complète et où le choix vient de nous. C'est comme si c'était déjà un peu téléguidé que, dans notre situation, hop, c'est ça la réponse. Un des intérêts, je pense, du bouquin, c'est simplement de faire connaître la vasectomie, d'expliquer ce que c'est, d'expliquer... Que c'est une possibilité parmi d'autres et de faire en sorte que des gens puissent intégrer la vasectomie comme peut-être une possibilité dans leur situation, mais c'est pas pour dire que c'est une solution en soi ou une contraception qui aurait des vertus universelles, quoi. Si ici on a l'impression que la pilule par exemple c'est l'étape la plus commune quand on est quand on a entre 20 et 40 ans, on va dire. C'est pas du tout le cas dans plein de pays, et l'accès à la contraception, il n'est pas uniforme. Aujourd'hui, dans le monde, un quart des femmes qui ont recours à la contraception sont des femmes qui sont stérilisées. Et on recourt à la contraception définitive, à la stérilisation, à la ligature des trompes, de façon vraiment ultra massive dans certaines régions du monde, alors qu'ici, ça reste quelque chose de très minoritaire. Et ici, que ce soit quand on est un homme ou quand on est une femme, pour accéder à la stérilisation, il faut être motivé et le motiver et se justifier. Et ça reste difficile d'y parvenir si on n'a pas eu d'enfant, par exemple, ou si on est dans un âge que les médecins estiment trop jeune pour avoir vraiment une réflexion aboutie sur le sujet. On a la contraception est ici quelque chose qui nous semble facilement accessible, mais il y a quand même... Non, la contraception, ok, mais la stérilisation, non, ce serait trop, et on ne peut pas disposer de nos corps jusqu'à ce point-là. Il y a quand même un moment où ça fait encore réagir les médecins, où on nous met des barrières, où on nous dissuade, où on prétend qu'on ne peut pas être sûr de soi, etc. Ça touche quand même à cette question de la mainmise de l'État sur nos corps, et qu'est-ce qui se joue? Pourquoi c'est inadmissible, donc jusqu'en 2001 inadmissible, et après 2001 compliqué, de pouvoir dire « je ne veux pas d'enfant » ou « je ne veux plus d'enfant » et d'aller au bout de ce choix, quoi. Qu'est-ce qui se joue du côté de l'État et des institutions médicales pour que ce soit si difficilement entendable ?
La vasectomie, c'est une contraception irréversible.
En fait, en France, on la présente vraiment comme stérilisation définitive parce qu'on ne peut pas garantir le fait qu'elle soit réversible. Là, maintenant, avec les techniques qui existent aujourd'hui, on estime, selon les études, que l'opération inverse, qu'ils appellent vasovasostomie, elle permettrait, dans 80% des cas, de reconnecter les deux bouts des canaux de manière à ce que les spermatozoïdes passent à nouveau. Voilà, ça fonctionnerait dans 80% des cas. Ça donne pas lieu non plus à 80% de grossesse parce que entre-temps, voilà, il y en a certains pour qui la production de spermatozoïdes s'est altérée, il y a l'âge de la compagne, pour les hommes qui font le choix de revenir sur la vasectomie, de faire l'opération inverse, dans à peu près 50% des cas, c'est suivi d'une grossesse. C'est pas une opération qui est faite couramment, cette vasovasostomie. Il y a une autre possibilité, d'avoir fait conserver du sperme dans les sécos, donc dans les centres de conservation des œufs et du sperme.
Ça, c'est pas obligatoire ?
C'est pas obligatoire. C'est une option qui est proposée par pas mal d'urologues qui font l'opération maintenant, mais c'est pas obligatoire.
En plus, je crois que c'est payant.
Et c'est payant, ouais. Il faut payer chaque année la conservation. Ouais. Et le nombre d'hommes qui, un jour... après avoir eu une vasectomie, demandent à recourir à leurs paillettes conservées, congelées, c'est vraiment très très faible. Donc voilà, c'est quand même la très grande majorité des hommes qui font le choix de la vasectomie, le font aussi à un âge qu'on peut qualifier de relativement avancé, c'est-à-dire plus de 40 ans, qui ont déjà eu des enfants, et beaucoup d'urologues en fait refusent de stériliser des jeunes, refusent de stériliser des gens qui n'ont pas eu des enfants, et donc aussi, c'est pas forcément qu'il n'y a que ces gens-là de plus de 40 ans avec des enfants qui font la demande, mais les médecins font en sorte que ce soit essentiellement ceux-là qui puissent y accéder, quoi. Mais oui, ça, donc la vasectomie, c'est une méthode définitive. Et en parallèle, j'en parle un peu dans le bouquin, même si ce n'est pas le sujet central. Et j'en parle parce que c'est ça qui anime maintenant surtout les gens qui militent sur la contraception des hommes. Il y a maintenant des méthodes de contraception temporaires. Depuis les années 70, en France, on peut, même si ça se sait très peu, les hommes peuvent avoir une contraception hormonale. Il y a quelques médecins qui permettent d'y accéder, qui font le suivi. Et on peut aussi utiliser des contraceptions dites thermiques. Alors, le principe, c'est que au lieu que les testicules restent à leur place habituelle dans le scrotum, on fait en sorte qu'elles viennent se coller contre le corps. Et donc, au lieu d'être à 35 degrés, elles viennent se coller au corps à 37 degrés. Et cette hausse de température de 2 degrés suffit à bloquer le processus de production des spermatozoïdes. Et donc, il y a une association créée à la toute fin des années 70 qui s'appelle ARDECOM, l'Association pour la recherche et le développement de la contraception masculine, qui avait testé et mis au point un slip qui permet cette remontée automatique des testicules. Ça s'est appelé, voilà, un peu pour la blague au début, et puis c'est un nom qui est resté, le remonte-couille toulousain. Donc ça a été employé par des centaines d'hommes qui ont, depuis les années 70, qui le font soit de façon très visible au sein de cette association, avec des recherches médicales autour, et puis une visibilité, etc. Soit des gens qui l'ont fait très discrètement et qui n'en ont jamais parlé à personne. En parallèle de ça, il y a ces dernières années un dispositif qui a le même fonctionnement mais qui simplifie encore plus physiquement le procédé. C'est juste un anneau en silicone dans lequel on glisse la verge et la peau du scrotum, et les testicules là aussi remontent automatiquement et permettent cette remontée de température. Et donc ça, c'est un truc qu'on trouve maintenant, ça s'appelle AndroSwitch, et on le trouve sur un site internet qui s'appelle Torem. Donc là, il y a quand même pas mal d'hommes maintenant qui s'intéressent à cette méthode-là. À ces méthodes-là, donc soit qui font des ateliers pour fabriquer des slips en mode do it yourself, soit qui se procurent cet anneau et qui se réunissent un peu pour en parler, pour échanger leurs expériences, etc. La vasectomie n'est pas la seule possibilité pour les hommes qui ont envie de considérer leur fertilité comme une conséquence de leur sexualité qu'il faut prendre en compte, quoi.
Il y a aussi le vasagel.
Alors, Vasagel, c'est un produit qui a été mis au point aussi dans les années 70, qui a été laissé de côté pendant longtemps. Et là, il y a de nouveau des études qui sont faites dessus. Là, le Vasagel, c'est encore une fois annoncé comme quelque chose qui pourrait être commercialisé bientôt. C'est toujours pas le cas. C'est un produit en fait qu'on injecte dans les canaux déférents, qui vient bloquer le passage des spermatozoïdes dans le canal déférent et qui dégrade les spermatozoïdes. L'idée, c'est donc qu'on puisse être contracepté par ce moyen, enfin qu'un homme puisse être contracepté par ce moyen pendant des années. Et ensuite, il y a une autre injection qui se ferait avec un liquide qui vient dissoudre le Vasagel. Donc ce serait comme une espèce de vasectomie, là pour le coup complètement réversible. Mais voilà, c'est une recherche parmi plein d'autres. Il y a eu vraiment plein de produits qui ont été déjà expérimentés pour la contraception testiculaire. Et à chaque fois, ça bloque à un moment donné de la recherche. Souvent parce que on considère que pour les hommes, il faut arriver à une contraception qui serait presque zéro défaut. On accepte pour les femmes un certain nombre d'effets secondaires, une balance bénéfice-risque qui soit pas... voilà, qui comporte pas mal de risques, alors que pour les hommes, il y a l'idée que s'il y a des effets secondaires à peu près comparables à ceux que subissent les femmes, là, c'est vraiment impossible de mettre ça sur le marché, ce serait rejeté. On n'a pas les mêmes attentions envers les corps des unes et des autres.
On nous dit il faut avoir des enfants, et on nous dit pour ça, tu vas contrôler ta maternité.
Alors moi j'ai l'impression que c'est encore plus insidieux que ça, parce qu'on nous dit pas il faut avoir des enfants. C'est-à-dire que c'est tellement une évidence que c'est une injonction qui a même plus besoin d'être prononcée. C'est-à-dire que tout est autour de nous suffisamment explicite pour qu'on en vienne nous-mêmes à se dire que la norme est celle-là. Mais après voilà, ça dépend des contextes dans lesquels on a grandi, évolué. Mais il y a quelque chose qui serait problématique au fait de ne pas en vouloir. Oui, qu'à la fois, il y a une incitation forte à devoir faire des enfants, et qu'en même temps, en tant que femme née après le MLF, il y a cette évidence qu'il faut recourir à la contraception, parce que c'est ça qui va faire la condition première de notre libération, quoi.
Voilà, c'est ça. Et dans le but d'en avoir, ouais, hein, des enfants, la contraception, c'est contrôler la possibilité d'être mère, mais jamais questionner le fait d'être mère. Tu vois, toujours en disant, bah voilà, c'est un moyen qui va. J'ai l'impression aujourd'hui que qu'il y a une lecture comme celle-ci, qui est que la contraception va te permettre d'être libre pour pouvoir travailler. Pour pouvoir te consacrer à des choses, une activité sociale, quoi, tu vois, et pas pour toi-même.
Après, c'est peut-être un jugement un peu sévère quand même envers les mouvements féministes qui quand même pour certaines ont aussi revendiqué cette liberté totale là aussi de pas avoir d'enfants ou de ne pas se projeter à travers la famille, le couple et tout ça. Mais oui, c'est sûr que là, il y a aussi un gap générationnel entre des femmes qui sont maintenant qui sont maintenant assez âgées et qui ont connu vraiment ces batailles pour l'accès à la contraception, à l'avortement, avec ensuite notre génération née dans les années 70 où on est arrivé à l'adolescence, la contraception était disponible et on a peut-être pas trop questionné non plus cette ce recours à la contraception médicalisée, parce que on a grandi dans l'idée que c'était une évidence de recourir à ça. Et j'ai l'impression que là, pour des femmes qui sont plus jeunes aujourd'hui, il y a une remise en cause de cette médicalisation, une remise en cause du fait de bouffer des hormones quotidiennement pendant des années, qu'il y a de leur part plus de tentatives pour se réapproprier un savoir sur les rythmes biologiques, sur le cycle, sur les méthodes de contraception non médicalisées, et qu'il y a une critique qui est peut-être difficilement entendable pour des femmes qui ont vraiment défendu l'accès à la contraception médicalisée, mais que c'est quelque chose maintenant qu'on questionne plus, quoi. Je sais pas s'il y en a certaines qui aient raison et d'autres tort, et je me positionne pas clairement en faveur d'un ni pour ni contre tel ou tel type de contraception. Ce qu'on peut voir, c'est encore une fois que ça peut s'expliquer par des moments historiques très différents. Et dans les années 2010, par exemple, il y a eu des scandales autour des pilules de 3e et 4e génération, des scandales autour de certaines méthodes de stérilisation ou de femmes, ou autour de certains DIU. Et c'est ces trucs-là aussi qui, à un moment donné, ont éveillé les consciences sur le fait que c'est pas rien de bouffer tout ça, et que ça peut en effet créer des AVC, des thromboses, des problèmes cardiaques, des maux de tête, des maux de ventre, enfin tout un tas de choses au quotidien dont on parlait assez peu et dont maintenant on parle plus. Voilà, je crois qu'il faut ni rejeter en bloc la contraception médicalisée hormonale, par exemple, ni l'adopter béatement, mais avoir des exigences autres envers la médecine pour que les effets secondaires soient minimes, et pour qu'on questionne plus aussi la manière d'accéder à la contraception, quels moyens de contraceptif on choisit, selon quel moment, qui choisit, est-ce que c'est les médecins qui nous l'imposent, est-ce que on est complètement libre dans nos choix avec toutes les informations nécessaires pour le faire. Et là-dedans, il faut, je pense, en partie réintégrer les hommes, même si le fait que les hommes prennent en charge la contraception pose aussi beaucoup de questions sur les rapports de pouvoir qui se jouent entre hommes et femmes dans les couples hétéros, notamment, autour de cette question contraceptive. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie que de faire en sorte que ce soit les hommes qui gèrent et donc qu'on contrôle cette partie-là de la sexualité ? En cherchant dans des sources pour la période des années 70, j'étais tombée, alors je ne sais plus là dans quel journal c'était exactement, je crois que c'est un journal qui s'appelle La Gueule Ouverte, mais je ne suis pas très sûre, en tout cas sur des témoignages de gens qui avaient recouru à la vasectomie, et il y avait notamment un homme et une femme qui vivaient en couple, qui parlaient des contraceptions qu'ils avaient utilisées et qu'ils utilisaient encore, et qui posait de façon très naturelle quelque chose qui, en effet, est une évidence et qui, à ce moment-là, en fait, m'a interpellée, parce qu'on ne le dit pas souvent et que ça, c'est rarement défendu comme ça. Mais dans le couple, le gars avait eu une vasectomie et sa compagne, elle continuait à mettre un stérilet. Et ils étaient très au clair là-dessus sur le fait que l'infertilité de l'un, la stérilité de l'un ne faisait pas l'infertilité de l'autre. Ils le posaient comme une réflexion qu'ils avaient eue à deux sur le fait que chacun sa contraception, parce que chacun sa sexualité, et que on réduit souvent ces questions-là au couple exclusif, comme si il n'y avait que à deux que se jouait cette question contraceptive, alors qu'en fait on peut aussi faire le choix pour soi-même et qu'un homme veuille gérer sa fertilité à lui sans forcément que ce soit en lien avec une prise de relais ou un partage avec l'autre, etc. Ça, c'est entendable aussi. Là, il y a des hommes qui, par exemple, en expérimentant l'anneau, donc qui font le choix de la contraception temporaire, disent que c'est pas juste mettre sa bite dans un anneau, en fait, qu'en faisant ça, ça les a questionnés beaucoup sur leur rapport au corps, parce qu'il faut être attentif à son corps comme un homme l'est rarement, qu'il faut s'observer, compter les heures pendant lesquelles tu mets l'anneau, avoir ce souci quotidien du corps. Et ça les interroge aussi sur leur sexualité, sur leur pratique, sur qu'est-ce qu'une sexualité, pourquoi la sexualité serait forcément reproductive. Il y a des tas d'autres... Il y a des tas de pratiques sexuelles qui n'aboutissent pas à la reproduction. Et voilà, que à travers cette question-là de la contraception, ça les interroge sur aussi tout un tas de questions qui sont très individuelles ou qui sont très liées aux questions de genre, quoi.
Pendule, le soleil tombe de haut, et par cette canicule qui exposerait sa peau, en dehors des parisiennes qui se déguisent en indien, mais c'est pour ça qu'elles viennent, mon conseil ne sert à rien. Le soleil sèche les figues, attention à vos museaux. Le soleil sèche les figues, ne sortez pas sans chapeau. Gentillesse, on nous prend pour des blagueurs. Le soleil, mais c'est l'ivresse, la santé et le bonheur. Mais point trop n'en faut quand même. C'est pourquoi je ne peux pas travailler une semaine sans me reposer de moi. Le soleil sèche les figues, attention à vos museaux. Le soleil sèche les figues, ne sortez pas sans chapeau. Je connais un légionnaire qui venait du Sahara. Il avait bien fait trois guerres, ou la même, je sais pas. Il s'est cru mal un peu cher, il est sorti comme ça. Et depuis, pauvre misère, il est devenu fada. Le soleil sèche les figues, attention à vos museaux. Le soleil sèche les figues, ne sortez pas sans chapeau.
Ok, vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4. On vient d'écouter Fernand Sardou.
Le papa Michel.
Avec la chanson Le soleil sèche les figues qu'on avait trouvé de circonstance. Et maintenant, on voulait enchaîner sur un petit rappel pratique des différentes techniques de contraception masculine. Et du coup, à commencer par le préservatif, le grand classique.
Et le plus simple.
Et le plus simple, celui-là, à la différence des autres, il protège aussi des IST. Donc, ça peut être utilisé en complément d'un autre moyen de contraception. On a parlé de la vasectomie pas mal pendant 40 minutes. Là. Donc, juste pour rappel, la technique, c'est de sectionner et de ligaturer les deux canaux déférents, ce qui empêche que l'éjaculat soit chargé en spermatozoïdes. Et même à terme, je crois que la production de spermatozoïdes s'arrête carrément. Quoi.
Probablement.
Je crois que c'est ça. Naturellement, du coup. C'est une méthode que les toubibs préfèrent présenter comme définitive, même s'il y a une opération qui vise à relier les petits canaux déférents, qui s'appelle la vasovasostomie, et qui est efficace dans 80% des cas.
Il y a la contraception thermique.
La contraception thermique.
Slip chauffant, ouais.
Voire remonte couille tout besoin. Et également le petit anneau en silicone. Tout simplement, là, le principe, c'est que les testicules, elles pendent. Naturellement, elles pendent parce qu'elles produisent des spermatozoïdes à 35 degrés ou 35, un truc comme ça. Et en fait, en les remontant dans l'abdomen, elles passent à 37,5, du coup, arrêt de la production de spermatozoïdes. Donc ça veut dire qu'il faut porter le dispositif, donc le slip ou l'anneau, pendant 15 heures par jour, et évidemment repasser à une autre méthode de contraception, comme la capote par exemple, en cas d'oubli.
Il y a la, il y en a une autre.
C'est... La dernière, ah ouais. C'est la méthode hormonale.
Hormonale, ouais.
Ouais. Ça, c'est une piqûre de testostérone en intramusculaire une fois par semaine. C'est un taux élevé. Du coup, le principe, c'est que c'est un taux élevé de testostérone dans le sang. C'est un signal pour le cerveau qui a une grosse production de spermatozoïdes. Donc, en maintenant artificiellement un taux élevé de testostérone, bah, le cerveau il met en pause la production de spermatozoïdes. Donc je voulais rappeler que toutes ces méthodes, elles n'ont pas d'effet négatif sur, ni sur l'éjaculation, ni sur l'érection, le plaisir, le désir, etc. Ni le fait de rester un homme pour les mecs cisgenres. Puis pour les mecs cisgenres qui les utiliseraient.
On se calme les gars, tout va bien.
Voilà.
Mais juste sur la contraception hormonale, elle en parle un peu sur, dans son... Elle en parle un peu dans l'entretien, mais c'est vrai que il y a eu très peu d'études qui ont été faites pour justement essayer de trouver, très peu de recherches même, qui ont été faites pour essayer de trouver quelque chose qui irait, parce que à chaque fois.
Bah c'est ça, c'est que il y a peu de recherches et que en fait le moindre effet indésirable il est présenté comme rédhibitoire et qui conviendrait pas du tout et c'est pas du tout bah par exemple oui il peut y avoir par rapport à la méthode hormonale des petits des effets secondaires, des effets indésirables, mais en fait comme la pilule, comme beaucoup de méthodes de contraception féminine aussi, et sauf que ben ça c'est jugé acceptable pour les meufs et pas pour les mecs.
Ouais, parce que de fait la contraception hormonale est un crée un dérèglement hormonal chez les femmes bloque l'ovulation. C'est comme si à un moment donné on disait aux ovaires de dire non, vous sortez plus d'ovules là, voilà. Donc ça a forcément quelque chose de chimique et quelque chose de d'engagé dans ton corps et en quoi, et c'est un médicament. Donc les effets secondaires il y en a puisque c'est un dérèglement. Donc maintenant c'est à savoir nous, pourquoi, en tant que femme, dans quelle mesure on l'accepterait, la limite, c'est pas la même que, visiblement, pour celle des hommes.
Ouais, c'est ça. J'imagine que ça doit être aussi une histoire d'habitude, quoi. C'est difficile de...
C'est-à-dire attends, tu quelle habitude?
C'est-à-dire que... en fait, ce que disait Elodie, c'est que il y a une espèce de... Allez, utiliser le terme de script, où on... préconise très jeune aux jeunes femmes la pilule, et en fait c'est comme ça, enfin c'est presque comme s'il n'y avait pas vraiment le choix.
Tout à fait.
Et donc du coup c'est pas le cas pour les hommes, et j'imagine que
Une femme, d'une manière générale, dès lors qu'elle a des rapports sexuels dès le moment et qu'elle veut pas de grossesse, on va lui prescrire la pilule. Déjà, elle a un rapport sexuel, on lui dit va voir le gynéco.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce qu'on est malade?
En quoi le gynéco va m'aider dans ma sexualité? Déjà, tu y poses le truc, t'es là, mais on se détend. Alors, le gynéco, évidemment, c'est un mec, parce que sinon, c'est pas un gynéco, on est d'accord. Et là, tout d'un coup, comme s'il fallait tout. La maîtrise de notre sexualité en tant que femme devient quelque chose de social et exposé comme ça. Donc, ce qui n'est pas effectivement le cas des mecs, puisqu'on ne leur dit pas la première fois qu'ils font l'amour, va voir un urologue.
Et éventuellement, on leur file une boîte de capote.
Voilà, pour les dire protège-toi des maladies, mon fils.
Voilà.
Ou me fais pas un enfant dans le dos, mon fils.
Ouais, je suis pas prêt à être grand-mère tout de suite, ou grand-père.
Quoi qu'il en soit, effectivement, socialement, le point de vue social sur la sexualité en général et la contraception est évidemment pas la même pour les hommes que pour les femmes. Et du coup, les recherches vont dans ce sens et on va plutôt... Alors maintenant, la contraception féminine, ça veut pas dire que, en fait, ça a été quelque chose de libérateur pour la femme aussi. Pouvoir maîtriser ses grossesses, et qu'on n'est pas en train de dire que la contraception, c'est mal ou quoi que ce soit. Mais juste ses pensées... c'est penser aussi sous l'idée du contrôle et aussi destiné aux femmes. Bon, en même temps, ça se passe dans leur corps.
C'est ça, c'est que c'est aussi... pas forcément... j'allais dire les premières concernées, mais en tout cas, les premières à... Enfin, celles qui doivent gérer en cas de...
Grossesse.
En cas de grossesse non désirée, en l'occurrence.
Non, c'est sûr. Donc,
mais
voilà.
C'est pour ça que c'est intéressant aussi, là on va en avoir après, d'avoir des témoignages de gens qui disent que, de mecs qui disent que pour eux la vasectomie c'était, ça se pensait pas forcément dans l'optique d'un couple, mais en fait c'était aussi bah pour lui en fait, voilà, c'était
de maîtriser sa fertilité,
voilà,
à lui.
C'est ça. Mmh. Ouais. Et que bien sûr en fait il y a des couples où les deux partenaires ont chacun leur moyen de contraception, quoi.
Donc voilà. Eh bien, merci pour ce petit échange.
Avec plaisir. On s'écouterait pas une petite ode à la contraception ?
Ouh, c'est mais le moment.
Oui. Comment elle s'appelle ?
Elle s'appelle... Ah putain.
Gidré,
je pense. Bon, ok, vas-y, Gidré, c'est à toi.
Allez, c'est parti. Merci Gidré pour cette ode à la ménopause.
Non, à la contraception.
Ah là, pas du tout à la contraception. Oh là là. Il y en a qui suivent, quoi.
Elle est un peu glauque, la chanson, quand même.
Ouais, c'est bon. Désolé, maman.
Voilà, on est confus.
Voilà.
Alors oui, on voulait revenir sur aussi les... Donc en fait, quand on a préparé l'émission, on s'est rendu compte que effectivement, il existait peu de choses. Sur l'information, mais quand même un certain nombre, puisqu'on s'y met quand même. Il y a des articles récemment qui sont sortis sur la contraception masculine et les hommes en parlent.
Eh oui.
Hein, parce qu'ils ne vont pas se laisser faire. Il faut bien qu'ils maîtrisent aussi leur fertilité. Hein.
C'est ça. Il y a notamment l'association Ardécom dont on parlait à Elodie dans l'entretien. Leur site, c'est contraceptionmasculine.fr.
Voilà, il est assez complet.
Et oui, c'est ça, c'est super complet, il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Du coup, Ardécom, c'est, pour le rappel, c'est un peu l'association historique qui a été créée en parallèle des groupes féministes des années 70. Du coup, qui se bouge pour le développement des méthodes de contraception masculine. Quoi dire, c'est un peu le groupe qui a été
qui a fait connaître, enfin. C'est un groupe de parole aussi, de parole d'hommes qui, à un moment donné, parallèlement donc au groupe de parole de femmes qui existait dans les années 70, se sont dit bah, nous aussi, il faut peut-être qu'on réfléchisse sur notre condition et notre image d'homme viril, masculiniste. Et voilà, donc ils ont, mais pas du tout, dans le, ils n'ont pas pris les choses pour dire, pour se regarder le nombril, non, c'est dans leur rapport social. Et la question de la contraception s'est posée parce qu'elle s'est posée pour les femmes et du coup bah ils se la sont posées aussi, mais en utilisant aussi des outils féministes pour d'éducation populaire et aussi pour essayer de comprendre cette question quoi ensemble, ouais. Et non pas pour reprendre le pouvoir ou dans un des perspectives de domination.
Voilà, du coup, c'est un des groupes que je crois qui a promu la méthode du slip chauffant,
à
Toulouse.
Il y a le collectif Thomas Boulou.
Ouais. Ouais, qui est un peu, j'ai l'impression, l'équivalent en Bretagne.
Mais en plus jeune.
En plus jeune. Ça va faire plaisir à Ardécom, tout ça.
Non, mais c'est bon, Ardécom, désolé.
C'est un peu la même chose, hein. Du coup, information sur les contraceptions masculines.
Et particulièrement la contraception thermique, puisqu'ils ont un site aussi qui s'appelle le Boulou Show.
Ah.
Le Boulou Show, où eux, en fait, ils font la promotion du slip chauffant, enfin du slip chauffant, là.
Ouais.
Ils nous... Enfin, après, ça se vend, hein, mais en fait, ça peut se faire aussi.
Oui,
c'est voilà. Il montre un peu comment on peut le fabriquer. Je sais pas, c'est un slip. On fait un trou au niveau de la verge. On met un élastique. On faut savoir coudre. Et on serre l'élastique. Et du coup, ça remonte les testicules à l'intérieur de soi.
Ouais, enfin,
de
l'abdomen.
Vous plutôt.
Ouais.
Ouais. Parce que, oui, j'en ai pas. Voilà. Oui, donc, alors, oui, voilà, donc, Boulou Chaud. Hein.
Voilà, et du coup, je crois que c'est aussi, j'imagine, collectif Thomas Boulou comme Ardécom, qui organise, par exemple, des ateliers de confection de ces fameux slips chauffants.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on avait ? On avait aussi le planning familial 45.
Ouais, qui font une fiche qui font une fiche sur la... Déjà, qui font des groupes de parole... Et qui font aussi des accueils sur la contraception masculine dans leur département. Ils ont une page web où ils peuvent où tout est listé. Et pour ceux qui habitent le 45, bah ils peuvent avoir accès facilement à la contraception masculine dans ce département, quoi.
Ouais. Et pour je sais pas, peut-être pour terminer, à moins que tu aies d'autres choses à ajouter.
Ouais.
Moi j'allais parler de jinenco.wordpress.com. Du coup, c'est un site qui recense des soignants, soignantes, soit féministes ou en tout cas qui ont des méthodes de travail safe et inclusives. Donc, que ce soit des gynécos, des sages-femmes, des généralistes. Donc, ça a l'air assez bien fait avec une carte de France qui recense ces soignants, soignantes, etc.
Pour trouver un urologue ou une gynéco, c'est la référence, puisque les personnes doivent adhérer à la charte qu'ils proposent,
d'accord.
À savoir féministe. Non, c'est... Oui, voilà. Bon. Hein ? Petite musique ?
Très bien.
Qu'est-ce que
qu'est-ce qu'on fait ? On met une musique et on met les témoignages avant ? On peut mettre les témoignages, peut-être ?
Ouais.
Ok.
Ouais.
Allez, c'est parti.
Là ou les raisons pour une stérilisation ou même ta stérilisation.
Ouais, il y a deux raisons. Enfin, les deux trucs qui m'ont motivé, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas une histoire de responsabilisation, mais c'est que en fait la personne en laquelle j'ai le plus confiance, c'est moi. Et donc partant de là, je me dis que le faire sur moi, agir sur moi, c'est Il n'y a pas de problème de confiance, de ci, de ça. Moi, je le fais, c'est réglo là-dessus. Enfin, tu sais pas, en fait, avec qui tu baises. Tu sais pas ce que ça va devenir. Tu sais pas ce qui peut arriver. Que... J'en sais rien. Enfin, bon, moi, j'ai déjà été confronté à des cas de, je sais pas... On baise, tac. Ben, voilà. La copine se retrouve enceinte. Bon, bah ben, soit des fois, il y a avortement. Ça m'est arrivé aussi d'une copine qui se dit, ben oui, mais au final, peut-être que... J'en sais rien, maintenant que c'est là, pourquoi pas, tu vois. Et pour moi, c'était impensable. Et me dire, non, mais en fait, je règle ça. Hein. Je me stérilise comme ça. Y a pas... Ça pose le problème de conscience à personne. Et non, et pas non plus de problème physique, tu vois. Je veux pas... Enfin, bon, c'est déjà arrivé, c'est chiant, quoi. C'est chiant pour elle, et c'est chiant pour moi aussi, quoi. Et le deuxième truc, bah, clairement, c'est séparer reproduction et plaisir, quoi. Que la vasectomie, ça... La reproduction, ça devient un lointain souvenir, tu vois. Alors qu'avant, c'était un truc qui pesait, qui était toujours là, quand même un peu derrière. Tu vois. Même si tu fais hyper gaffe, t'en sais jamais rien. Et... Bon, autant des fois, tu peux... Ça se passe bien, autant des fois, tu gardes ça en tête, tu flippes, et bon, ça joue quand même sur ta manière de prendre du plaisir.
Pour toi, ne pas avoir d'enfant, c'est par à contre-cœur ou par conviction?
Ah non, par conviction.
Et donc, est-ce que se vasectomiser, c'est une lutte? Ou pourrait être une lutte?
Oui, pourquoi pas. Enfin, elle peut l'être de manière individuelle, et après, vu que c'est pas si facile que ça non plus, ça pourrait devenir une lutte de plusieurs gens, tu vois, qui galèrent parce que c'est pas possible pour tout le monde. Mais je me vois pas le poser comme étant le truc à faire absolu, comme étant la réponse à toutes ces questions. Et de la reproduction et de ci et de ça, tu vois, pour moi c'est mon choix, je suis pas sûr, je sais pas si c'est le meilleur, en tout cas pour moi, comment je posais le truc, c'est celui qui me semblait le mieux, mais je le vois pas en lutte, en sens, c'est le truc à porter pour tout le monde, bah tu vois, moi je veux pas de gamin, mais après s'il y a des gens qui en veulent, je veux pas non plus leur tartiner la tête, qu'ils en veulent pas à tout prix, enfin je sais rien.
Contrairement en fait, le changement dans ta sexualité,
que pour la copine, elle se dit qu'au moins il y a déjà ça d'enlever, tu vois, comme poids, ça règle pas tout, mais que bon, déjà ça, c'est posé, tu sais que, tu vois, ça viendra pas compliquer ta relation, quoi. Mais c'est tout. Enfin, la question tout à l'heure de savoir si ça a changé quelque chose dans la sexualité, bah en fait, pas directement, mais un peu quand même. Enfin, non, je dirais, de fait, j'ai une pratique hétérosexuelle, même si je me prends la tête, je réfléchis surtout. Bon, malgré tout, depuis que je suis vasectomie ou vasectomisé, c'est marrant, j'ai comme une tendance à me voir moins hétérosexuel et à laisser plus facilement mon imagination aller vers plein de possibles, en fait, ce qui est con, parce que je pourrais les avoir eu avant, en fait, c'est possible. Mais je sais pas, comme si, toi, de couper ça avait fait que ça avait ouvert... ça avait cassé une sorte d'enfermement dans lequel j'étais, tu vois. Je sais pas, en tout cas, ça correspond dans ma tête un peu au même moment, quoi.
T'as mis longtemps, hein, t'as pensé longtemps avant de, et puis du parcours avant de le faire, ou et à un moment t'as su que c'était un peu...
Non, ça fait déjà quelques années que je m'étais renseigné, mais c'était à l'étranger, c'était cher. Après j'ai découvert que ça pouvait se faire en France, j'ai suivi un peu les parcours vite fait, et au final j'ai eu rapidement une adresse où ça marchait direct. Moi j'ai pas suivi tout un parcours hyper long, chiant. Ça s'est fait... À partir du moment où j'ai trouvé le plan, ça s'est fait hyper rapidement, quoi.
L'acte, t'as trouvé ça violent?
Non.
Non.
C'est la première fois que je rentre à l'hosto avec un smile géant, quoi.
Ouais, mais sortir.
Pareil.
Et après?
Après, j'y pense plus, et c'est totalement intégré depuis, et j'y pense plus jamais, en fait.
Est-ce que tu as un regret? Est-ce que t'as un regret après?
Ouais, pas d'avoir fait plus tôt, quoi.
Ça compte pas.
En fait, je veux dire, ouais. Ça fait des années que j'y pense, si j'aurais pu le faire plus tôt, j'aurais grave kiffé, quoi. L'avoir fait maintenant, c'est très bien, tu vois, mais...
Ouais. Ah ouais, bien sûr.
Enfin, de pas avoir pu le faire plus tôt, tu vois. Parce qu'en fait, moi, ça fait longtemps que je veux, mais c'est la possibilité de le faire, quoi. Pour ça, tu vois, je me dis effectivement, bon, le regret, tu dis pas l'avoir fait plus tôt, mais bon, en même temps, je me dis que ça va, tu vois. Si effectivement, toute ma vie, j'aurais dû porter ça, bon, moi, je me dis qu'il me reste un peu de marge pour en profiter, ouais.
et tes raisons pour une, ta et des stérilisations.
Des raisons, ben le point sur lequel vous voulez pas partir, le non-désir d'enfant, forcément. Après, je pense qu'il y a la prise en charge de sa contraception, parce que dans une relation hétéro, c'est généralement les meufs qui gèrent ce point-là, et c'est un peu bizarre comme répartition de la gestion, quoi. Et que c'est un moyen sûr, contrairement à la pilule, le stérilet, et que donc ça... Vu que les partenaires que j'ai généralement, elles sont plus pilules. Ben voilà, la pilule, c'est juste une merde, un poison que tu te mets dans le corps, et c'est pas anodin comme truc, quoi. Et puis sur un niveau juste pratique, bah c'est beaucoup plus agréable de pas briser ses jeux sexuels par « Ah merde, c'est le moment de mettre la capote » ou « Est-ce que je l'ai mis trop tard ?» ou « Est-ce que je l'ai mis trop tôt ?» Je trouve que ça casse un peu le délire, quoi. Mais après, comme on disait juste avant, par rapport, ça reste juste un truc contraceptif, et au final, ça s'adresse plus à des relations régulières plutôt que multiples, quoi. T'es quand même obligé de connaître l'état de santé de tes partenaires pour que ça puisse être voilà, si je vais avec une meuf que je connais pas, machin, bah, je mettrai une capote, quoi, que je sois vasectomie ou pas, quoi. Simplement parce qu'il y a tout, c'est juste un moyen contraceptif, quoi.
Est-ce que pour toi c'est donc en soi aussi une lutte, et qui fait que tu aurais pu te vasectomiser peut-être à contre-cœur, mais par conviction, ou...
Disons que je vais pas mentir non plus, quoi. À la base, je le fais pour moi, même s'il n'y a pas que moi que ça arrange. Mais bon, à la base, c'est d'abord une opération sur mon corps. Donc forcément, c'est pour moi que je le fais plus que pour les autres, quoi. Je vais pas... Mais après, c'est pas... Comment dire? C'est pas que. Voilà, il y a aussi... aussi le fait que, bon, voilà, s'il y avait des moyens de contraception... plus naturel, moins nocif que la pilule, ou peut-être, je sais pas, j'aurais choisi un autre mode de contraception adapté à moi. Après, bon, voilà, je sais que j'en veux pas d'enfant, donc vasectomie, c'est sur le long terme, quoi. C'est pas à réactualiser, c'est pas...
En fait, mais donc le changement dans ta sexualité, qu'est-ce qui a changé dans ta sexualité, du coup ?
Ce qui a changé dans ma sexualité, c'est que quand j'ai des rapports avec des partenaires dont je sais s'ils sont safe ou pas, bah c'est plus l'éclate, quoi.
Et donc, de ce que tu as pu entendre, comment c'est pris par tes partenaires ? Donc, filles, forcément.
C'est pris des fois... Des fois, il y a certains partenaires qui trouvent que c'est un peu radical, comme... Mais bon, après, j'ai eu les mêmes discussions avec ma famille qui me disaient peut-être un jour... Mais autrement, hormis le côté peut-être un jour, tu te diras que t'as été trop radical par rapport à ça, il y a plein de partenaires qui sont pas... Moi, qui s'étaient pas vraiment posé la question, ni... C'était plus de l'information. Et puis de se dire que, bah ouais, au final, si tous les mecs qui... Moi, généralement, la fin de la discussion, c'est, bah ouais, si tous les mecs qui étaient sûrs de pas vouloir d'enfant se faisaient vasectomie, il y aurait moins de meufs qui auraient des problèmes de santé à cause de la pilule. Bah disons que je l'ai su quand il y a un pote qui m'a dit qu'au final, c'était assez simple, au final. Parce qu'au début, j'imaginais un truc quand même vachement complexe. Complexe, expertise psychiatrique, long délai. Et qu'au final, bon, bah, il y a un bon plan, mais ça se fait tout seul, quoi.
C'était assez simple.
Moi, ça a été assez simple. Logiquement, il y avait un délai de réflexion. J'ai demandé à ce qu'il soit raboté. Il a été raboté. On a pris directement la date de l'opération. J'ai croisé une fois le médecin. Le jour où je l'ai revu, j'étais sur la table d'opération, quoi.
Un jour peut-être. Et donc la question aujourd'hui, pas demain, mais un regret sur la vasectomie.
De ne pas l'avoir su plus tôt. Voilà. Parce que j'ai déjà une ou plusieurs partenaires qui sont tombés enceintes et qui ont dû se faire avorter et que c'est pas bénin comme opération, quoi. Mais ouais, de ne pas l'avoir su plus tôt, quoi.
Ok, c'était des témoignages qui avaient été recueillis pour l'émission La haine des chaînes qui passait il y a, je sais pas, quelques années, je crois, sur Radio Galère. Donc des témoignages d'hommes qui avaient eu recours à la vasectomie. Alors on voulait simplement... rappeler qu'on avait reçu Elodie Serna qui a écrit Opération vasectomie et qui est sortie il y a pas très longtemps
aux éditions Libertalia.
Exactement, Libertalia.
Il existe quand même pas mal de ressources, de témoignages. Si on tape témoignages vasectomie sur un moteur de recherche quelconque, il y a des hommes qui témoignent de leur... de leur expérience et de leur désir et de leur et de ce qui les a amenés à ça, donc c'est peut-être plutôt intéressant, c'est aussi basé là-dessus. Et qu'il existe aussi des fiches de patients de l'Association française d'urologie sur les différentes techniques et notamment la vasectomie, et qui c'est une fiche assez complète et qui aussi montre que on peut y avoir accès facilement au final, mais que vers des urologues qui le pratiquent évidemment. À Marseille, il y a l'hôpital La Conception.
Ouais. Je crois qu'à l'hôpital de La Conception, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais d'après ce que j'ai comme témoignage direct, voilà, aujourd'hui, c'est plus aussi compliqué qu'avant de trouver des urologues qui pratiquent la vasectomie. Je pense qu'il y a quelques années, c'était un petit parcours du combattant. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple. D'ailleurs, les urologues disent que ça représente toujours une part infime de la population, mais le nombre d'opérations est en train d'augmenter assez radicalement. Donc voilà. Je pense que c'est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années, aujourd'hui, de pratiquer une vasectomie.
Ah, c'est clair.
Voilà.
Et aussi que vous pouvez donc retrouver cette émission sur le site internet
irzis.at/émission-histoire au singulier, donc irzis irzis.at/émission-histoire.
Ah
donc
bon,
vous pourrez écouter cette émission d'ici quelques jours et toutes les précédentes.
Et il y a aussi le site de Radio Galère dans l'émission, dans la rubrique Libre Débat, au premier mercredi du mois.
Voilà.
Eh bien, cette émission touche à sa fin.
Mais tout à fait.
Qu'est-ce que c'est ?
Bon. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve d'ici un mois, le premier mercredi du mois, à 16h30, pour une nouvelle émission.
En attendant, sortez couverts.
En attendant, on écoute Dalida avec... Les marrons chauds, on voit ça.
Salut.
Ciao.
J'ai froid dans le dos et j'ai la goutte au nez. Quand l'hiver est là et que tombe la neige, pour me réchauffer, il me faut plus qu'un baiser. Ah, alors tu m'achètes quelques marrons grillés. Chaud, chaud les marrons chauds, j'aime les marrons chauds. Achetez-moi des marrons chauds, chaud les marrons chauds. La 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 main, la même par-dessus et le tout dans ma poche. On s'en va gaiement, riant comme des gamins. Lécher les vitrines de tous les magasins. Chocho les marrons, j'aime les marrons chauds. Achetez-moi des marrons, chocho les marrons chauds. La 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 la. La nuit tombée, les gens rentrent chez eux. Pour rester au chaud, les pieds dans le pantoufle. Je me moque bien des soirées au coin du feu. Être près de toi, c'est ce qu'il y a de mieux. Chocho les marrons chauds, j'aime les marrons chauds. Achetez-moi des marrons chauds, chaud les marrons chauds. La 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 la. Mon petit corps qui devient un glaçon quand l'hiver est là et que tombe la neige. Mais lorsque l'on s'aime comme nous nous aimons, l'hiver est quand même une belle saison. Chocho les marrons chauds, j'aime les marrons chauds. Achetez-moi des marrons chauds, chauds les marrons chauds. La 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 la.